Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 18 août. Les Lyonnais vont devoir encore subir la canicule ce week-end. 38 degrés annoncés à Lyon. Une réduction de la production des centrales nucléaires du Bugey et du Tricastin est envisagée dès ce week-end en raison de la canicule. Une canicule qui n'autorise pas à se baigner n'importe où. Un enfant de 12 ans en a fait les frais hier après-midi à Rieux-la-Pape en se noyant dans une mare. Nouveau week-end difficile sur les routes en raison des retours de vacances. Des chiffres concernant les véhicules en circulation en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, alors que certains de ces véhicules seront interdits de circulation dès l'année prochaine. Un focus dans cette édition sur le groupe lyonnais SIPAG qui a investi ces dernières années dans plusieurs projets immobiliers, en particulier pour la réhabilitation de friches comportant des bâtiments historiques, avec notamment des projets aux performances énergétiques exemplaires. Le spectacle de Dieudonné sous bracelet, prévu à Lyon demain samedi, est officiellement interdit.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Lyonnais vont encore devoir subir la canicule ce week-end et une bonne partie de la semaine prochaine. 38 degrés annoncés pour vendredi, samedi, dimanche à Lyon et jusqu'à 40 degrés la semaine prochaine. La chaleur descend jusque dans le métro. Toutes les rames de tramway ainsi que 99% des bus sont bien équipés de climatisation, mais ce n'est pas le cas pour le métro. Sauf le métro B, le seul à offrir une ventilation réfrigérée. Pour les lignes A, C et D, sachez que ce système ne sera pas installé avant une dizaine d'années lorsque le matériel roulant sera renouvelé à l'horizon 2035 pour les lignes A et C, 2037 pour la ligne D. La plupart des métros en France ne sont pas climatisés, sauf Lille et environ la moitié du métro parisien. Une réduction de la production des centrales nucléaires du Bugey et de Tricastin envisagée dès ce week-end en raison de la canicule. Une réduction d'activité indispensable pour respecter les limites de rejet thermique imposées à Bugey. Deux des quatre réacteurs de la centrale sont refroidis grâce aux eaux du Rhône. Dès le mois de juillet, EDF avait dû arrêter l'un de ses réacteurs. La canicule n'autorise pas à se baigner n'importe où. Un enfant de 12 ans en a fait les frais hier après-midi à Rieux. Il s'est noyé dans une mare située en bordure du bois de Sermenaz, près de l'avenue de l'Europe. Plusieurs jeunes se seraient baignés au cours de l'après-midi dans cette nappe d'eau, longue et large de quelques mètres seulement. L'envasement de la victime pourrait être à l'origine du drame. Une enquête a été ouverte. Le maire de la commune, Alexandre Vincendet, s'est rendu sur les lieux pour présenter ses condoléances à la famille et faire part de sa profonde émotion. Le Grand Lyon avait récemment fait des travaux pour aménager et agrandir cette mare située dans un espace naturel sensible. La baignade y est en théorie interdite. Des barrières bloquent normalement l'accès au bassin, mais l'une d'entre elles avait été enlevée ces derniers jours.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Un nouveau week-end difficile sur les routes pour les retours de vacances. La circulation restera difficile. Demain, samedi, de 7h à 16h, il est conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 18h. Dimanche, privilégiez vos déplacements avant 13h ou après 21h. Les taches oranges aperçues sur les eaux du Grand Large mercredi avaient pour origine une fuite d'huile biodégradable issue de la cassure d'un élément du bateau Faucardeur. Cette fuite d'environ 20 à 25 litres d'huile biodégradable ne produit aucun dégât ni sur la faune ni sur la flore. Le service des données et études statistiques du ministère de la Transition énergétique a publié sa dernière étude détaillée des véhicules en circulation en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. Les véhicules particuliers, un peu plus de 672 000, sont majoritairement des critères 1 pour 34% et des critères 2 pour 36%. Il resterait un peu plus de 6 000 véhicules critères 5 dans la métropole. Ils sont déjà interdits de circulation et de stationner dans la ZFE. Officiellement. À l'inverse, 73% des véhicules sont déjà classés E, 1 ou 2 sur le territoire métropolitain. 93% du parc est limonais. C'est dans les quartiers les moins favorisés que cette part de véhicules est la plus faible. Saint-Fons, Vénissieux ou encore Vaux-en-Velin, autour de 65%, mais aussi Givors, seulement 55% de véhicules classés E, 1 ou 2. Les véhicules critères 4 interdits dans moins de 5 mois, donc en 2024, sont peu nombreux, 5,6%. Beaucoup plus de voitures classées 3, plus de 134 000 sont encore en circulation et ne pourront plus entrer dans la ZFE en 2025 si les chiffres devaient en rester là. Mais on sait que le parc est en perpétuel renouvellement. La métropole a mis en place de nombreuses incitations pour accélérer cette mutation.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Le groupe lyonnais SIPAG a investi ces dernières années dans plusieurs projets immobiliers, en particulier pour la réhabilitation de friches comportant des bâtiments historiques. Un des derniers projet, Zadiga Cité, dans la partie sud de Confluence. L'ancien garage village du Marché-Gare a ainsi été transformé en espace à performance énergétique exemplaire, un atelier de transformation urbaine, un lieu d'échange autour des thèmes comme l'énergie, l'écomobilité, la construction durable ou encore les relations intergénérationnelles. SIPAG s'est associé au cabinet d'architectes Thierry Roche et à l'agence Esprit d'Essence pour ce projet. Mais le groupe a déjà mené bien d'autres projets aux performances énergétiques exemplaires, notamment dans l'écoquartier de Grenoble ou plus près de chez nous, à l'Antiqueille, à Lyon, sur les hauteurs de Fourvière, avec la réhabilitation de l'ancienne chaufferie qui abrite aujourd'hui des logements. Nous avons rencontré Éric Gagnère, c'est le président du groupe familial SIPAG.
SIPAG, c'est plus une plateforme, en fait, hein, avec des moyens financiers, des compétences, des conseils, et qui est au service de différentes sociétés du groupe, notamment GMG Partner, qui est donc une société spécialisée dans le développement de plateformes logistiques, et une autre société qui n'est pas très connue, qui s'appelle SAS Too, qui va faire des projets un peu plus opportunistes sur des friches, des bâtiments patrimoniaux, en bureaux, principalement en bureaux. Et en activité.
Quelles sont vos principales réalisations à Lyon? Parce que vous avez déjà un actif à Lyon.
Oui, donc à Lyon, on a réalisé déjà un immeuble rue Vendôme, qui est une restructuration, surélévation. En fait, c'est un immeuble où on a exploité la loi du flot à l'époque au maximum. Hein, voilà. On a fait la chaufferie de l'Antiqueille. On a un projet qui va arriver dans le 6e, où on va essayer de faire une surélévation un peu en emblématique, hein, voilà. Et puis après, on a tous nos projets logistiques, mais là, qui sont plutôt autour de Lyon, l'île d'Abo, la plaine de Lin, l'aéroport, etc.
Avec à chaque fois une approche environnementale particulière, hein, une approche environnementale importante pour des lieux qui, au départ, on pense qu'une zone de logistique, c'est pas fait forcément pour avoir de la nature.
Alors, sur la zone logistique, le sujet, c'est de faire accepter ces gros immeubles, hein, qui peuvent aller de 10 000 à 100 000 mètres carrés, ce qui est très très important. Hein. Et donc là, l'intégration, le paysage, l'organisation du site est extrêmement importante pour que ces bâtiments soient acceptés et après offrent un cadre de vie aussi intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'employés dans ces immeubles-là. Quoi, hein.
Comment vous les traitez alors ces lieux?
Alors il y a beaucoup de sujets déjà réglementaires, hein, ça qui est très lourd. Hein. Des sujets réglementaires aussi sur tous les aspects faune-flore, espèces protégées, compensation agricole. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réglementaires qui est déjà extrêmement contraignant, qui suffirait presque à répondre à toutes les questions. Ce qu'on amène en plus, c'est le cadre de vie, c'est l'agrément, c'est les plantations, c'est le problème d'eau, les bassins, etc., qui font qu'on a des bâtiments dans des environnements extrêmement intéressants. Quoi.
Avec des cas concrets de faune, par exemple, qui revient?
Ah oui, alors, ce qu'on fait, en fait, maintenant, on fait un état du terrain avant. Ça, c'est réglementaire. Hein, et on fait maintenant, ça, c'est pas du tout réglementaire, un état du terrain deux ans, trois ans, quatre ans après. Et là, on voit, et on est surpris, hein, de ce qu'on peut créer comme nouvelles espèces, enfin, amener comme nouvelles espèces, également des espèces protégées, une flore qui peut être très intéressante. Et ça, c'est une conception de paysage, d'écologue, mais ça marche et moi je m'aperçois que la nature reprend très très vite en fait. Hein.
Une de vos dernières réalisations, c'est ici à Lyon, à Confluence, c'est un ancien garage de l'ancien Marché-Gare. Oui. Qu'est-ce qui vous fait craquer sur un bâtiment qui, à première vue, n'est pas très attirant, hein?
Ce qui m'a vraiment plu, c'est le site. Bon, moi je suis à la base, je suis promoteur, donc le site, c'est le site. Hein. Donc le site et le devenir du site qui m'a intéressé. Le projet de Thierry Roche de ce bâtiment démonstrateur, donc un bâtiment démonstrateur dans un site en devenir, pour un investisseur, on a quasiment tout. Hein. Voilà, donc c'est ça qui m'a plu. Et puis un peu le travail d'équipe et puis un peu l'aventure, parce que ça reste quand même une aventure. Quoi.
Un coup de cœur qui en plus s'accompagne d'une installation de vos équipes, en l'occurrence sur place. Hein.
Exactement, donc on met deux filiales, GMG Partner pour la partie logistique et la société Too pour tout ce qui est logement, bureau. Mais pas du tout, c'est pas une production comme un promoteur classique où on va faire 200 logements par an, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est chaque fois un beau projet, un intérêt, une expérience, voilà, c'est ça.
Les bâtiments historiques comme celui-ci vous intéressent en particulier ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a tout un sujet qui va arriver, et ça, pour nous, c'est vraiment la référence. C'est tout le sujet des friches, hein, où là, on démontre qu'on sait faire des choses intéressantes dans une friche, en co-construction avec une ville. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a des sujets de partout, quoi.
Ces dernières années, on avait beaucoup parlé d'urbanisme transitoire. Cet urbanisme, il peut, on peut maintenir quand même des bâtiments aujourd'hui et éviter de démolir pour...
Bien sûr, hein, oui, on peut maintenir des bâtiments. Alors, le problème, ça demande beaucoup d'ingénierie, parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire un bâtiment comme ça que de faire un bâtiment d'activité classique. Ça a quand même un coût, hein. Donc, il faut aussi que le vendeur du terrain, si c'est la ville, prennent en compte un peu ce surcoût qui est évident. Hein. C'est assez sûr que l'ancien réhabilité coûte beaucoup plus cher que du neuf. Mais bon, le résultat est aussi différent, quoi.
Votre réalisation à laquelle vous êtes le plus attaché ?
On oublie tous les mauvais souvenirs, bien sûr, hein, donc il reste le bon. Et c'est vrai qu'un bâtiment comme la chaufferie, tous les jours, c'est bien tous les jours, quoi. Hein. Et c'est ça, ces bâtiments-là, je pense... Ils sont réussis quand chaque jour que vous venez, vous dites c'est bien, quoi.
Un sacré pari, parce que d'une part, il était question de la détruire à un moment, je crois. Et puis ensuite, c'est pas forcément un bâtiment qui était beau au départ.
La chaufferie, c'est un peu pareil, c'est le site. Hein. C'est-à-dire que le site est tellement extraordinaire. Oui, d'ailleurs, pour être honnête, quand moi j'ai acheté la chaufferie, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dedans. Mais le site, enfin, j'allais dire, pour un Lyonnais, d'être au-dessus de Lyon, devant le théâtre gallo-romain sous Fourvière, c'est une fois dans la vie, ça. Hein. Donc moi, je l'ai acheté, et puis après, on s'est posé plein de questions. Et finalement, c'est très bien, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de regret, quoi. Hein.
C'est surtout grâce au travail des architectes qu'on arrive à comprendre la valeur patrimoniale et à la mettre en valeur aux yeux des gens qui passent devant et qui apprécient maintenant le bâtiment, voilà, alors qu'ils ne le voyaient pas avant.
Alors, rappelez-nous peut-être l'histoire de la chaufferie de l'Anticaille, comment ça s'est réalisé ?
C'est un bâtiment qui date de 1955, ouais, qui permettait de chauffer les autres bâtiments de l'hôpital de l'Anticaille, qui est tout le site autour de la chaufferie. Donc c'est un des derniers bâtiments à avoir été désaffecté, et donc un des derniers à avoir été rénové une fois le site fait. Et donc 50 ans plus tard, voilà, le projet a pris forme pour en faire un projet mixte, voilà, d'habitation et de bureaux.
Comment on traite un bâtiment comme ça, un cube, même s'il est sur la colline de Fourvière ?
L'avantage des bâtiments patrimoniaux et des architectes qui les ont faits, comme la chaufferie ou ici Zadiga Cité, là en l'occurrence c'est un architecte lyonnais qui s'appelle Pierre Brodext, et dans ces deux bâtiments on a reconnu une trame et une trame architecturale qui permettait de faire énormément de choses différentes. Donc les projets, comme l'a expliqué Thierry, sont passés par plusieurs phases. D'abord tout logement, après programme mixte, espace tout ouvert ou plus cloisonné, etc. Donc grâce à une trame intéressante, on peut tout faire.
Éric Gagnère, président du groupe familial CIPAG. Les funérailles de Véronique Trier-Lenoir, députée européenne Renaissance et cancérologue aux Hospices Civils de Lyon, décédée le 9 août dernier. Des personnalités politiques ont pris place dans l'Assemblée hier à la primatiale Saint-Jean, dont le ministre du Travail Olivier Dussopt, un représentant le gouvernement, également l'ancienne présidente de région Anne-Marie Comparini ou encore l'ancien maire de Lyon Georges Kepenekian, mais surtout des personnels des HCL. L'Assemblée comptait également de nombreux chercheurs du centre Léon Bérard. On apprend aussi le décès d'Huguette Faze, adjointe aux cultures à Mézieux à l'âge de 67 ans, figure du monde associatif. Huguette Faze avait rejoint l'équipe de Christophe Quignoux lors des dernières élections municipales de 2020. Ses obsèques auront lieu jeudi prochain à 14h45 à l'église Saint-Sébastien de Mézieux. Le spectacle de Dieudonné sous bracelet, prévu à Lyon demain samedi, est officiellement interdit face au risque de troubles à l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé la ville de Lyon dans un communiqué commun avec la préfecture. Fabienne Bussiot, la préfète du Rhône, déclare appuyer pleinement la décision du maire de Lyon d'interdire la venue de l'humoriste. Le CRIF avait demandé au maire et à la préfète d'empêcher Dieudonné de se produire à Lyon. La préfecture invite les maires des autres communes du département à prendre les mêmes dispositions si l'humoriste venait à s'installer sur une commune de la périphérie. Enfin, un mot de sport, Bamba et Tao Fifenua, les deux piliers internationaux, sont bien présents dans le groupe lyonnais qui affrontera le Toulon samedi à 18h10 à Gerland. C'est la première journée du top 14 pour le Loup. Tafili et Regard, tous deux touchés au mollet la semaine dernière, sont également dans le groupe. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et restez au frais.